Bonjour tout le monde.
Et maintenant, au micro, nous avons... Tu peux te présenter ?
Il faut que je parle de l'amour.
Vous dites... Oui. Vous dites le mot, là, l'amour.
L'amour.
Ce soir, sur les ondes...
Vous êtes dans vos voitures, derrière votre poste radio.
Ah oui, ça va être enregistré.
Ça fait 15 ans qu'on est qu'au Studio Zef.
Bonjour, on est en direct sur Studio Zef. Je suis Zoé Marcel Guichère, élève de première au lycée international Robert Badinter.
Et je suis Émilien Ravion, en première générale également au lycée international Robert Badinter.
On est au forum de l'orientation de Blois et pendant une heure, nous allons interviewer professeurs et professionnels et étudiants. Pardon. On commence avec Madame Matry, professeure de l'option cinéma audiovisuel du lycée international Robert Badinter. Madame, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous faites dans cette option ?
On est présent sur le forum de l'orientation puisque les élèves de l'option cinéma audiovisuel animent en partenariat avec la Fabrique un plateau télé. Donc, c'est quelque chose qu'on fait tous les ans dans la pratique de cette option audiovisuelle. Dans cette activité, ils vont aussi bien être aux caméras, à la régie. Il y a un petit peu de montage. Ce matin, les élèves ont pu faire des making-of. Et puis, bien sûr, il y a des élèves qui interviewent donc, des professionnels et des personnes de formation. Voilà pour ce qui se passe aujourd'hui.
Et donc l'option cinéma audiovisuel, elle consiste en quoi ? C'est combien d'heures ? Vous faites quoi ?
Alors c'est 3 heures par semaine sur les trois niveaux du lycée, en seconde, en première, en terminale. Mais on a des élèves qui des fois intègrent l'option en première et même des fois seulement en terminale. C'est une option, j'insiste bien, et ce n'est pas une spécialité au lycée international Robert Badinter. C'est 3 heures par semaine qui sont à suivre, donc ça peut paraître beaucoup, mais vraiment, comme c'est une pratique artistique et technique, à base de projets, en fait, ces 3 heures passent en général extrêmement vite. Les élèves, je pense, aimeraient souvent que ça dure un peu plus longtemps.
Très bien. Vous faites des projets, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ?
Alors, effectivement, le but de l'option, donc, c'est d'apprendre aux élèves les différents métiers du cinéma audiovisuel. Donc, c'est très large, puisqu'on ne parle pas que de cinéma. On parle vraiment de tous les métiers d'audiovisuel et donc aussi de tous les métiers techniques. On rencontre d'ailleurs des professionnels, même des professionnels de sociétés de distribution, production. Donc c'est vraiment très large. Le but, c'est bien sûr de leur apporter une éducation à l'image. Donc on fait de l'analyse filmique, on regarde des films, on va au cinéma, que ce soit en journée ou en soirée. On leur montre aussi des films pendant le cours. Et donc on fait de l'analyse d'image, voir ce que le réalisateur a voulu nous montrer à ce moment-là. Et le gros travail de l'option, c'est de faire un projet de court-métrage tous les ans qui est en partenariat avec un professionnel, un réalisateur ou un vidéaste professionnel. Et donc ce projet, ils font pour ça le scénario, le tournage et le montage. Donc c'est vraiment un travail qui va du début à la fin. C'est leur film et à la fin de l'année, ils présentent leur film au lobbyiste d'ailleurs. En soirée, ça c'est en partenariat avec Cinéphile, l'association de cinéma avec laquelle on travaille. Et donc ça c'est le gros au bout. Et après ils font des fois des mini-projets. Et puis on a plein de choses culturelles. Blois est une ville qui bouge beaucoup culturellement. Donc on a la chance d'avoir plein de choses qui nous sont proposées. Et puis on fait aussi des ateliers parce qu'il y a aussi Cyclic qui est une super asso qui nous permet de faire plein de choses avec des professionnels. Et donc par exemple là on va faire un atelier sur les effets spéciaux. Donc voilà, ça, c'est divers ce qu'on fait, mais effectivement le gros du travail c'est le projet de film.
Très bien. Et donc l'option elle s'adresse à des élèves qui ont déjà des compétences ou des connaissances particulières dans ce milieu-là, ou c'est vraiment ouvert à tous les plus grands débutants
Alors effectivement, c'est une très bonne question. C'est ouvert vraiment à tous. Alors d'abord, on commence en seconde. En seconde, on va faire bien sûr, on va vous apprendre l'histoire du cinéma, comment c'est arrivé, les métiers, les différents métiers. On fait vraiment quelque chose, on va dire, et puis le vocabulaire du cinéma. Donc on a vraiment un aspect un peu théorique. C'est à peu près vraiment les seuls cours d'ailleurs théoriques. Et encore, souvent, ce n'est pas vraiment théorique ce qu'on vous fait faire. C'est bien sûr avec des images, etc. Mais effectivement, en seconde, on est vraiment sur la découverte. Souvent, on a des élèves qui arrivent, qui savent déjà faire des choses, qui savent monter, qui font déjà des images eux-mêmes, mais ils ne peuvent pas connaître tous les aspects qu'on va travailler. Et puis, on a des élèves qui arrivent des fois, même en première ou en terminale, ils sont vraiment, ils ne connaissent rien. Et ça n'empêche pas, puisque, et même si d'ailleurs, voilà, mes élèves qui arrivent en première, ils n'ont pas fait la classe de seconde, donc ils n'ont pas fait l'histoire du cinéma, etc. Ben, j'ai jamais vu que ça avait pu poser problème. Et pour autant, c'est souvent pas des élèves qui s'y connaissent dans ces domaines.
Et d'un point de vue débouché, est-ce que vous avez des élèves, des fois, que ça a permis d'entrer dans des écoles particulières ?
Alors oui, tous les ans, en terminale, enfin en post-bac, on a des élèves qui vont dans des écoles, soit des BTS audiovisuels, soit des écoles de cinéma pour faire de l'écriture, soit en fac de cinéma aussi, il y en a qui sont allés cette année. Donc c'est pas tout le groupe, hein, puisqu'on est plus sur un groupe que sur une classe. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais c'est souvent des petits groupes. On est autour de 10-15 élèves, souvent par niveau, ce qui est déjà pas mal pour faire un film, par exemple. Écrire à 10-15, c'est pas si simple. Mais du coup, effectivement, tous les ans, on a des élèves qui s'orientent dans ces domaines-là. On a aussi des élèves qui partent dans tout ce qui est journalisme. Et l'audiovisuel, c'est aussi ça. Donc je trouve ça intéressant justement qu'on ait pas que des élèves qui soient intéressés par la partie plus artistique, on va dire, côté cinéma, mais il y a aussi, l'année dernière, j'ai un élève qui voulait être reporter et donc il a fait l'option terminale et il a pu avoir l'orientation qu'il voulait, donc et je lui souhaite de devenir reporter d'ailleurs, mais voilà. Et on a des élèves qui partent vers des études plus classiques, pour eux c'est vraiment une découverte, ça leur permet de faire autre chose au sein du lycée. C'est un peu comme une soupape de... Je veux dire que c'est un peu 3 heures où ils peuvent un peu une soupape de... Je sais pas comment dire, mais de décontraction, parce qu'en première et terminale, quand même, le bac est très... Et peut être très stressant. Et c'est un rythme assez intense. Et du coup, ça leur permet de souffler. Et puis, on a aussi des élèves qui sont passionnés par ça, mais qui décident de faire des études et qui se disent « j'essaierai de faire ce métier, notamment dans l'acting ». À côté, je vais faire du théâtre, etc. Et qui n'osent peut-être pas se lancer directement après le bac. Ils font des études, mais qui pensent quand même faire ce métier. J'ai un élève en terminale l'année dernière, c'était ça.
Et est-ce qu'il y a des endroits où on peut retrouver les projets, les créations qui ont été faites par le cinéma audiovisuel ou...
Alors oui, on a une chaîne YouTube qui s'appelle l'Option Cinéma Audiovisuel. Alors, je n'ai pas encore changé de nom puisque le lycée a changé de nom récemment. Et du coup, pour l'instant, ça s'appelle toujours donc Option Cinéma Audiovisuel Augustin Thierry. Mais peut-être qu'entre-temps, ça s'appellera Option Cinéma Audiovisuel lycée Robert Badinter. Et puis, on a aussi une page Instagram qui s'appelle Cinéma Audiovisuel tiré du bas LAT pour lycée Augustin Thierry. Je pense que je vais peut-être changer aussi. Et qui, du coup, sur laquelle je mets tout ce qu'on peut faire avec les élèves, les différentes sorties, les activités. Donc, comme là aujourd'hui, je vais sûrement publier des choses sur le plateau télé, des photos, des stories, etc. Et donc, ce qui permet de voir ce qu'on fait dans cette option.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Qui est cette barge trafiquée dans son regard, sa fille anormale et sa fille au doigt défigurée-là. Qui est ce bâtard tendant vers la borderline du raniste affable qui suce sa proie, décapitez-le. Offrez sa tête au roi, faites-en ce que vous voulez, vous ne la connaissez pas, la reine veut la dévorer. Offrez sa tête au roi, faites-en ce que vous voulez, vous ne le connaissez pas, lui le prince veut l'épouser. On se cachait, maintenant on s'élève. C'est pas vaché sur les clichés qu'on changera les règles. Il crachait, maintenant on riposte. C'est pas en restant sans rien dire qu'on changera la donne. Les BD sont beaux, j'ai osé rêver que tout le monde enfin le voyait. Depuis quand le bonheur des autres peut amoindrir le tien? Tu dis quoi? Je ne comprends pas. Reprends ton souffle et tes pancartes et va marcher plus loin. Tu veux nous orienter, c'est gentil de proposer sans vouloir t'offenser, va te faire enculer. Tu veux nous orienter, c'est gentil d'insister sans vouloir te brusquer, va te faire cunilinguer. Les BD sont beaux, j'ai osé rêver que tout le monde en fait.
retour avec des étudiants, donc on va vous laisser vous présenter.
Bonjour, moi je m'appelle Léonie, je suis élève en deuxième année de programme grande école, donc première année de master à l'ISC Paris Campus Orléans.
Et donc moi Guillaume, je suis également à l'ISC Paris Campus Orléans, une école de commerce et de management, et moi je suis en dernière année de master, donc en bac plus 5.
Super, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des matières qui sont enseignées, que vous suivez ?
Donc en programme grande école, c'est assez généraliste, donc on va tout voir, que ce soit de la finance, du management ou même de la fiscalité, on touche vraiment à tout.
Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une formation où on peut tester différents modules à différentes matières qui se rapprochent de près ou de loin au marketing, communication comme le disait, ou management comme le disait Léonie, pour pouvoir après se spécialiser. Et puis en parallèle de ça, donc dans nos études, on est également en alternance, ce qui nous permet d'avoir une formation en entreprise.
Et c'est une formation donc sur combien de temps exactement, et ça s'organise comment un petit peu
Alors là, le master, il est sur 2 ans, mais en parallèle de ça, on me propose aussi des bachelors à l'ISC Paris. Et là, le bachelor, il est sur 3 ans.
Avec Léonie, on a un peu le même parcours. On est là, nous, depuis respectivement 4 et 5 ans. Et donc, on a fait tous les deux nos 3 ans de bachelor donc, pour aller chercher un bac plus 3. Et donc, depuis 1 an et 2 ans, on est chacun dans un master pour aller chercher notre bac plus 5.
Wow. Et donc pour l'alternance, comment ça se passe? C'est combien de temps?
L'alternance, elle intervient à partir de la 3e année de bachelor. Donc le rythme, c'est 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Et ensuite, sur les masters qu'on propose aussi, c'est pareil, tout en alternance. Et là, encore une fois, 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école.
L'idée vraiment de l'alternance, c'est qu'on puisse du coup allier à la fois nos cours, qui nous permettent d'avoir une approche et un apport théorique, et puis du coup s'exercer dans les entreprises où là, du coup, forcément, on a des responsabilités. Ça nous permet d'un peu d'avoir mettre le pied à l'étrier dans les entreprises, justement, et puis d'avoir des premières expériences professionnelles à valoriser pour ensuite potentiellement décrocher un CDI à la sortie de l'école.
Et est-ce que vous diriez que c'est une formation durant vos études qui est très, très prenante en termes de temps, de travail personnel à fournir en dehors? Ou c'est pas spécialement compliqué à suivre et à cumuler avec d'autres activités
Je trouve pas forcément. Après les 2 premières années de bachelor, c'est sûr que c'est toujours un peu plus léger en termes de travail, je trouve. Après, dès l'instant où on part en alternance, je pense que Guillaume, t'es d'accord avec moi, mais dès l'instant où on part en alternance, forcément, il y a le professionnel et le personnel avec les cours à lier. Et là, tout de suite, ça prend un peu plus de temps.
En fait, ce qui est hyper intéressant, notamment sur les premières années, c'est que vous allez avoir une formation où vous allez avoir à la fois vos cours et à la fois des engagements dans des associations en fait, qui sont vraiment intégrés directement au parcours. Et là, en fait, c'est vraiment à vous de savoir à quel niveau vous voulez vous investir. En fait, vous pouvez y passer 3 heures, ce qui est la norme, mais vous pouvez aller après passer certains samedis pour aller dépasser un peu ce que vous faites, vos activités. Et c'est là où ça devient hyper intéressant. Ça casse un peu avec ce qu'on a l'habitude au lycée, avec des devoirs en plus des cours. Là, ça devient vraiment réel et donc c'est vraiment votre investissement. Comme dans une entreprise, en fait, soit vous vous limitez, vous cantonnez à vos missions, soit vous allez créer un peu votre poste, créer vos projets, et c'est là où ça devient vraiment enrichissant pour votre expérience personnelle. Alors après, forcément, quand vous passez en alternance, c'est plus compliqué de s'investir dans ces projets associatifs, et vous avez vos missions en entreprise. Et encore une fois, lorsque vous êtes en entreprise, soit vous pouvez vous cantonner à ce qu'on vous demande de faire, soit justement vous pouvez aller compléter et développer vos activités et prendre un peu d'importance au sein de vos équipes.
Et si on peut faire un petit retour en arrière, vous avez fait quoi pour en arriver ici, au lycée par exemple?
Alors moi je viens d'un bac général, je pense que je dois être la génération où le bac a changé de contrôle, c'est ça. Et du coup j'avais comme spécialité en première LLCE, SES et maths, et en terminale j'ai continué la même chose, sauf que j'ai pris les maths en option.
Et moi je suis de la dernière génération du vieux bac, donc moi j'ai un bac traditionnel S, option physique je crois, donc voilà, et donc j'ai fait mes 2 ans en bac S, et puis après j'ai intégré l'ISC.
Bac S, on rappelle anciennement bac scientifique, donc ce qui correspondrait aujourd'hui à peu près à maths, physique, SVT.
Et vous pensez que les spécialités que vous avez prises étaient indispensables pour faire ce que vous voulez faire, ou il était possible d'en faire d'autres?
Alors, je vais répondre en premier. Alors, franchement, moi, j'ai fait un bac S de base. Je voulais faire de la biotechnologie. Donc, tout ce qui crée les médicaments ou alors tout ce qui va être dans la parfumerie. Donc, rien à voir avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Et en fait, non, rien. Enfin, c'est juste qu'après, Nous, ce qu'on attend en fait dans cette école, c'est un peu les personnalités, savoir un peu quelles sont vos attendus. En fait, moi, j'ai évolué au fur et à mesure dans mon cursus lycéen et je me suis dit que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Et la partie biotech. Et donc maintenant, ben voilà, je me suis reposé des questions en fait sur moi, sur ce que j'aimais. Et je trouvais que ce qui était enseigné en école de commerce et l'engagement en association, c'était plutôt la manière pédagogique que je voulais avoir. Et c'était aussi plutôt les domaines dans lesquels je voulais me spécialiser.
Et moi, après, avec mon côté un peu plus littéraire, je pouvais me dire qu'en école de commerce, il y aurait beaucoup de maths ou de matières avec des chiffres. Et que du coup, ça pourrait être un frein, mais finalement, pas du tout, puisque c'est un accompagnement personnalisé sur le long terme. Et du coup, aucun souci au niveau des SP.
En fait, peu importe les SP que tu choisis, nous, en fait, ce qu'on va regarder, c'est plutôt l'engagement que tu as dans ces SP. Peu importe la filière dont tu viens, que tu sois d'un bac pro, d'un bac technologique ou dans un bac général, mais avec des SP complètement différentes. Ce qui est intéressant et ce qu'on va se dire, nous, c'est OK, tu as choisi ces SP, mais maintenant, la question, c'est pourquoi ? Et si tu les as choisis, nous, on veut juste savoir un peu quel est ton engagement dans un projet lorsque tu le choisis. Tu as eu l'opportunité de choisir cette SP, bah voilà, maintenant on veut savoir pourquoi et tu nous justifies ces choix. Peu importe si elle a, entre guillemets, rien à voir avec ce qu'on peut imaginer d'une école de commerce à l'origine.
Et donc dans votre formation, est-ce qu'il y a beaucoup de places et est-ce qu'elle existe à beaucoup d'autres endroits en France ou c'est vraiment assez rare
Alors sur le nombre de places, je vais laisser Guillaume répondre puisqu'il fait partie du pôle promotion, mais sur les lieux, on a un campus à Paris qui est présent depuis 1963. Et sur Orléans, on y est depuis 2019.
Ouais, en fait, sur le nombre de places, nous, à l'ISC, vous avez à peu près 420 étudiants de la première année à la cinquième année. Et en première année, donc post-bac, vous avez 78 étudiants cette année. Et pour répondre après, un peu plus général, de manière générale, à ta question sur est-ce qu'il y a beaucoup de places dans ces formations, oui. En fait, outre notre école, vous avez plein d'acteurs différents, que ce soit la fac ou les BUT ou les BTS. Vous avez d'autres écoles de commerce aussi en France. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après, vous pouvez justement faire vos choix par rapport à la manière pédagogique que vous aimez, plutôt individualiste, plutôt en groupe, et après aussi en faire en fonction de vos affinités, de votre feeling un peu que vous allez dans les établissements ou que vous avez pu rencontrer. C'est pour ça que nous, par exemple, on organise des journées d'immersion en fait pour nos étudiants, enfin pour les étudiants qui pourraient être intéressés pour rejoindre la formation, qui sont gratuites. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent venir tester une journée avec les cours le matin et les entreprises étudiantes l'après-midi, accompagnés par des étudiants de chez nous, pour se rendre compte de ce qu'est une école de commerce et de ce qu'est l'ISC.
Et donc les débouchés, je crois pas qu'on en ait parlé un petit peu, les débouchés de vos formations, ce serait quoi ?
Alors les débouchés, c'est très large en fait. Moi j'aime bien dire qu'avec le même diplôme, vous pouvez faire plein de choses différentes. Moi au sein de ma promotion, j'ai des étudiants qui vont travailler en logistique dans une entreprise qui s'appelle Doré par exemple. Vous avez des étudiants qui travaillent chez L'Oréal ou dans des marques de luxe. Vous en avez qui sont community managers, c'est-à-dire qui s'occupent des réseaux sociaux d'entreprise. On en a qui sont plutôt business developers, qui s'occupent de créer de la valeur ou de développer les relations clients des entreprises. Donc c'est très large et c'est aussi ça que moi que je recherchais au débarrage. C'est une formation large qui me permet justement de peaufiner mon parcours au fur et à mesure de ce que j'aime faire.
Je pense qu'il y a autant de débouchés que d'élèves dans notre école en fait. Ouais. On n'a pas tous du tout le même métier.
Et au niveau des taux de réussite à peu près de ces études-là, ça se situe comment ?
Alors, j'ai pas de stats pour tout, je peux vous dire que là, sur notre promotion qui est passée de la première à la deuxième année, vous avez 100% des étudiants qui ont pu poursuivre en deuxième année. Donc ça, c'est plutôt une belle fierté parce que ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'ils ont été bien formés, mais ça veut aussi dire qu'ils ont continué. Et s'ils ont continué, c'est-à-dire qu'ils se sont pas trompés d'orientation. Et donc ça, c'est une vraie richesse pour l'école de se dire que voilà, les étudiants qui sont là, ils sont heureux d'être là. Et en plus, ils ont bien choisi leur voie.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Ce fut un agréable moment. Et quant à nous, on va faire une petite pause. On se retrouve après ce court instant musical. Where are you now? Where are you now? Are you coming back to us? Are you online? Are you contactable? Blocks come crashing down.
De retour donc au forum de l'orientation et on est aujourd'hui avec Monsieur Pinon, c'est ça ? Je vais vous laisser vous présenter un petit peu. Il me semble que vous avez participé à l'organisation du forum.
Oui, bonjour, tout à fait. Donc je m'appelle Laurent Pinon, je suis inspecteur d'éducation nationale en charge de l'information et de la rotation sur le département et au nom de la directrice académique, donc éducation nationale. Alors en son nom et au nom du conseil régional, je suis en charge du pilotage du forum de l'orientation. Alors quand on dit le pilotage, c'est pas moi qui fais tout. Hein. On a toute une équipe, on a toute une organisation. Et puis voilà, selon vos questions, je vais vous détailler, selon ce qui vous intéresse, de connaître du forum.
Oui, on est pas mal intéressé par vos activités principales en fait pendant ce forum, sur l'organisation particulièrement bien sûr, mais les activités.
Donc le forum, ce qu'il faut retenir sur le principe, c'est qu'il faut le comparer à un événementiel. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on voit pendant les deux jours d'ouverture. Donc hier, c'était pour les élèves, hein, collégiens et lycéens. Et aujourd'hui, c'est pour le tout public. Donc pour arriver à une opération comme ça, où on ouvre les portes, il y a toute une organisation sur plusieurs mois avant, en fait, comme tout événementiel. C'est-à-dire réservation du lieu, savoir combien il y a d'exposants, inviter les exposants, ceux qui viennent, sur quel pôle métier ils sont installés, etc. Mais ça va être aussi la réservation des repas, ça va être voilà, comme tout événementiel. Donc c'est une grosse machine, on a un certain nombre. Donc moi je pilote, en gros ça veut dire que je suis en haut de la pyramide, je ne fais pas tout seul. J'ai un collaborateur très précieux qui est mon adjoint et qui lui est plus sur tout l'aspect du pilotage technique, pratique. Après, ce qu'on a, c'est on a les directrices de CIO aussi qui nous aident. Et puis, on a pour chaque pôle métier, on a un responsable de pôle. C'est-à-dire que c'est les personnes qui vont gérer les exposants de leur pôle. Donc, une fois que nous, on a repéré tous ceux qui sont intéressés pour venir participer comme exposants, ensuite, on donne la liste aux responsables de pôle et c'est eux qui gèrent et qui les contactent pour savoir tout simplement déjà comment ils vont disposer les différents exposants sur leur pôle.
Vous avez dit donc qu'hier, il y avait les scolaires et aujourd'hui, c'est ouvert au grand public. Est-ce que vous pouvez faire un premier bilan au niveau de la fréquentation, de ce que les gens ont trouvé ici ?
Alors, pour hier, on avait donc l'ensemble des collégiens publics et privés, donc au niveau 3e, de tous les établissements, donc de tous les collèges du département. Et on avait au niveau des lycéens, pour tout ce qui était découvert de l'enseignement supérieur, selon les établissements, on pouvait avoir première générale, technologique, et puis les premières professionnelles. On peut avoir aussi quelques élèves de terminale volontaires. Donc ça, c'est chaque lycée qui a vu les élèves qui pouvaient être acheminés au forum, parce que pour certains lycées, ils organisent aussi, en interne de leur lycée, pour leurs élèves, un forum découvert des formations. Donc pour certains, ce n'était pas nécessaire de faire doublon avec ce forum. En termes de fréquentation pour hier, on était autour de, si mes souvenirs sont bons, à peu près 4500 élèves. Ça représentait, donc vous voyez, quand je vous dis c'est une grosse machine, c'est qu'en termes d'organisation, par exemple, il y a la question des transports. Donc on a la société Transdev avec qui on travaille et qu'on prévient assez tôt. On a une organisation de rotation qu'on appelle les établissements, de façon, ils ne viennent pas au hasard n'importe quelle heure. Donc on définit toute une planification étalée sur la journée de façon à ne pas avoir trop d'élèves d'un seul coup. Sinon, c'est des embouteillages dans les allées et puis les élèves ne profitent pas du forum. Pour ce qui est d'aujourd'hui, c'est tout public. Alors vous avez constaté aujourd'hui qu'on a une petite difficulté climatique avec le verglas de ce matin. Et c'est vrai que ça a fait chuter un peu la fréquentation de ce matin. On espère qu'il y a un petit peu plus de monde cet après-midi pour rééquilibrer. Mais c'est ouvert, les gens sont au courant, il y a une communication organisée par la région.
Et quand on vient pour présenter un stand, comment il faut faire ?
Vous voulez dire un exposant qui souhaiterait participer ici,
c'est
par
ça,
exemple ?
Quel est le cheminement ?
Oui, alors c'est une très bonne question parce qu'on a eu encore récemment des exposants qui nous ont contactés. Par exemple, la semaine dernière, en disant « Ah ben, on voudrait bien venir au forum la semaine prochaine ». Ben non. Ça s'organise, comme je vous disais, ça s'organise longtemps à l'avance. Donc au maximum, on dit à des nouveaux qui souhaiteraient participer de poser leur candidature, par exemple, au mois de septembre. Alors simplement nous envoyer un mail et à partir de là, on voit, nous, en fonction de la surface qu'on a, si on peut rajouter quelqu'un ou pas. Et sinon, on a notre listing des exposants de l'année précédente et ceux-là, on les recontacte tous individuellement pour savoir s'ils souhaitent prolonger, revenir à l'édition suivante pour participer.
Oui, parce que c'est ça qu'on ne l'a pas précisé, mais c'est donc un événement qui a lieu depuis plusieurs années, tous les ans, et qui a donc probablement lieu encore pour les prochaines années.
Alors, tout à fait. Pour le Loir-et-Cher, on a eu deux périodes. Le principe des forums de l'orientation sur la région centre, c'est assez particulier, c'est important de souligner, parce que des forums, on en a un petit peu partout en France, mais cette organisation qu'on a ici sur la région centre, c'est une vraie volonté du conseil régional, conjointement avec le rectorat, mais depuis au moins 20 ans, voire 25 ans. Et donc, on a eu différentes périodes où il y a eu tout un nombre d'années où c'était un peu plus en autonomie des départements que de l'organiser. Petit à petit, le conseil régional et le rectorat ont cherché à harmoniser en fait, les forums entre les 6 départements. Donc, on a une forme de formule unique comme on a ici, c'est-à-dire en général sur 2 jours, voire 3 par exemple pour Orléans, qui se déroule comme nous ce week-end. Mais une journée pour les élèves et une journée pour le tout public. Donc il y a cette organisation. Mais si on prend pour le Loir-et-Cher, la particularité, c'est qu'il y a jusqu'à quelques années, il n'y avait pas le jeu de paume qui existait. Donc on avait une formule qui était de 4 forums sur le département. Il y avait un forum collégien par bassin, c'est-à-dire Blois, Romorantin, Vendôme, pour leurs élèves, et un forum lycéen départemental, parce qu'on n'avait pas de grande salle. Donc depuis qu'il y a le jeu de paume, on a pu faire comme les autres départements, sur un seul site pour l'ensemble des élèves. Alors, un élément peut-être qui est important à préciser aussi, c'est qu'un forum de l'orientation, d'une part, au niveau des élèves, il faut que ce soit intéressant, il faut qu'il y ait une préparation en établissement. Sinon, l'élève, il vient, il se balade un peu. Celui qui sait un peu ce qu'il veut, il va aller directement sur un stand. Celui qui ne sait pas trop, il va tourner pendant 3 quarts d'heure, regarder à droite à gauche, mais sans vraiment creuser son projet. Donc la préparation en établissement avec les professeurs principaux et les psychologues de l'éducation nationale, c'est quelque chose de très important dans un premier temps. Et puis le forum tout seul, c'est bien qu'il soit complété. Donc il y a ce qui se passe dans chaque établissement scolaire. Mais on a aussi, par exemple, les nuits de l'orientation de la CCI, où là on est plus sur une découverte des métiers avec des professionnels. Et on a aussi ce qui s'appelle les journées portes ouvertes des lycées. Voire, et surtout au niveau de la voie professionnelle, la possibilité pour les jeunes de faire des mini-stages à un lycée pro. Vous voyez, il faut plus le voir comme un package en fait, entre plusieurs opérations qui se complètent les unes par rapport aux autres pour que l'élève puisse approfondir vraiment ses projets et puis tester, pourquoi pas, à travers des mini-stages. Après, sur les perspectives, de toute façon, le cahier des charges, il est défini, comme je vous l'ai expliqué, entre le conseil régional et le rectorat pour l'ensemble des départements. Donc, pour l'instant, voilà, c'est la formule actuelle qu'on a sur 2 jours.
Très bien. Et donc, quand on cherche un endroit particulier, un stand particulier, un exposant particulier, comment faut faire ? Est-ce qu'il y a des démarcations au sol ou pas ? Je n'ai pas vu.
Ah, mais ça, c'est très bien comme question aussi. Parce que ça fait partie aussi de l'organisation. Justement, de la préparation. Vous pouvez voir dans le forum différents endroits où il y a des grands affichages avec les plans du forum. Mais aussi à l'accueil, il y a les élèves aujourd'hui du lycée Val-de-Chère. Hier, c'était ceux du lycée professionnel de Launay qui pouvaient conseiller les gens sur l'orientation. Et ils sont disposés aussi à différents endroits du forum pour aider à s'orienter dans le forum. Mais sinon, on a conçu un plan assez grand avec l'ensemble des exposants et les personnes peuvent s'y retrouver.
Très bien, merci. On va se retrouver après une courte pause musicale.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Elle se baladait en chantant la la la. Quand je l'ai rencontrée, j'aurais aimé être Lacan. Mais les premiers rapports, elle me fit du mal. J'étais le mâle et la femelle fait mal. Dieu sait qu'elle, c'est qu'elle, c'est qu'elle. Acide et douce, telle la citronnelle. La miss me laisse par son acte con. J'ordonne l'abscisse, mais cela reste abscon. J'ai un esprit sain dans un corps très sain. J'ai fait le bien, mais elle est allée voir plus loin. J'en garde des séquelles, mais je sais qu'elle sait que le silence est d'or, est d'or. Alors je me tais. Sur la plage des costauds joue au domino. Me fait constater que j'ai moins d'abdominaux, que je n'ai pas les triceps de Sylvester Stallone, mais ça me froisse le cortex. Je m'appelle Claude. Dieu sait qu'elle, c'est qu'elle, c'est qu'elle. Vive ou vivote dans mes airs sensoriels. Pourtant classé non macho, je n'étais pas collabo. Des mythes d'infériorité dont te taxe Rousseau. Mais Miss me nomme Lilliput comme chez Swift. Du fait de mon 1m78. Oh belle, elle est belle, elle est bonne, elle a du bol, la demoiselle. Elle se trouvait des défauts, je trouvais qu'elle était belle. J'en garde des séquelles, mais je sais qu'elle sait que le silence est d'or, est d'or. Alors je me tais. Aujourd'hui je sais que j'ai été un imbécile. Elle était presque ma presqu'île. Les beaux parleurs ont beau parler, la belle Adonne reste à mes yeux de toute beauté. Seul Dieu sait qu'elle, son lait, c'est qu'elle. Incrustée dans ses yeux de miel. J'ai tenté de répondre à ses besoins en m'inspirant du fin, du fin. Cela fait des années que je suis classé dans les bons. Mais bon, le son de son silence me fait monter d'un demi-ton. Elle m'inspire tout comme le souvenir de son sourire. J'en garde des séquelles, mais je sais qu'elle sait que son silence est d'or, est d'or. Alors je me tais.
Sur Studio Zef, on va laisser notre nouvelle intervenante se présenter, s'il veut bien.
Donc, je m'appelle Farid Adag, je suis chargé de projet à la mission locale du Blaisois. dans le cadre du repérage et de la mobilisation des jeunes, mais je suis aussi ici dans le cadre d'une autre mission que j'ai, c'est le coordinateur départemental du SPRO-EP, qui est le service public régional de l'orientation et de l'évolution professionnelle.
Et donc, rapport à ces deux missions, on va un peu te demander de les expliquer séparément. Donc, tout d'abord, rapport à l'organisation de ce forum des métiers et de l'orientation, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu as fait et en quoi ça consiste plus globalement ?
Mais en fait, ta question est vraiment bonne parce que les deux missions sont mélangées. Donc je suis un peu schizophrène, on va dire, aujourd'hui, enfin sur les deux jours. Parce qu'en fait, il faut à la fois que je mélange mes missions de la mission locale et ma mission en tant que coordinateur du SPRO. Le coordinateur du SPRO, en fait, c'est simple. C'est qu'on essaye de mettre en lien tous les partenaires qui peuvent travailler, qui peuvent mettre en place des actions sur tout le département à destination de tous les publics. Aujourd'hui, à destination beaucoup des... Hier, du public, on va dire, scolaire, et aujourd'hui, sur tout le public, sur l'orientation tout au long de sa vie. En fait, il faut savoir qu'il y a une loi qui dit qu'on peut travailler son orientation tout au long de sa vie, c'est-à-dire pour les jeunes de, allez, je vais dire 16, parce qu'avant il y a l'obligation scolaire, de 16 ans jusqu'à 64 ans aujourd'hui, la retraite. Donc tout au long de sa vie, on peut se former, on peut avoir des carrières différentes, passer des nouveaux diplômes, avoir une nouvelle orientation de métier. Et donc il existe plein de partenaires sur le département. Et donc moi, mon but, c'est d'essayer de les mettre en lien et de pouvoir répondre aux besoins du public, en fait. Donc, et dans le cadre de mes missions, dans la mission locale, là sur le forum, ça me permet de nous faire connaître sur les missions qu'on peut faire au cadre de la mission locale pour les 16-25 ans, d'accord, diplômés ou pas diplômés. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, ça nous permet de rencontrer en fait tous les jeunes qui ne savent pas quoi faire, qui sont sur un terme qui n'est pas trop cool, c'est le décrochage scolaire. Je ne sais pas si ça vous... Mais en fait, le décrochage scolaire, on a l'impression que c'est juste les notes. Mais en fait, non, le décrochage scolaire, ça peut être une orientation qui a été mal préparée. On va dire, j'ai choisi, je ne sais pas, d'être... Je ne vais pas dire de mauvais d'un secteur, parce que sinon ça va être mal pris, mais d'être dans une voie et puis de me dire, mais en fait, ce n'est pas pour moi, ça. Mais on a le droit, en fait, de dire c'est pas pour moi. Et donc, moi, à travers la mission locale, on peut donner plein d'informations sur ce qu'on doit travailler, sur vers quoi on peut aller, mais toujours en individualisant la chose. C'est-à-dire que si un jeune vient me demander sur un projet, on essaie de travailler par rapport à son projet à lui, pas par rapport à mon projet à moi ou ce que demandent les autres. C'est lui, qu'est-ce qu'il a envie de faire et si on peut y aller. On essaye de mettre toutes les clés de son côté pour l'accompagner, lever un peu ce qu'on appelle les freins, la mobilité, le logement... je sais pas, les loisirs parfois et tout ça, pour répondre à ses besoins à lui, en fait.
Ça doit pas être toujours facile de travailler avec des personnes qui ont des difficultés ou, bah, comme vous disiez, en décrochage scolaire. Est-ce que c'est pas trop difficile des fois?
Ben en fait, ce qui est difficile, c'est quand on n'arrive pas à un résultat, en fait. Quand je dis un résultat, c'est de pouvoir répondre à ses besoins. Après, on est tous en difficulté aujourd'hui. Tu me parles des jeunes décrocheurs scolaires, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ferment, il y a beaucoup de salariés qui sont dans des boîtes pendant 15 ans, 20 ans et qui font ça parce qu'il faut manger, parce qu'il faut rentrer de l'argent. Et l'idée, c'est aussi de leur donner un sens à ce qu'ils font chaque jour. Pour aller travailler, pendant des années, on se levait juste pour ramener de l'argent à la fin du mois, pour pouvoir donner à manger aux enfants, pour pouvoir se payer des loisirs. Aujourd'hui, on est dans une dynamique où les gens, ils aimeraient aussi se lever le matin pour faire quelque chose qu'ils aimeraient faire, en fait. Et je pense que c'est comme vous, les jeunes, on ne va pas vous proposer, c'est pas parce qu'on recherche dans un secteur qu'on va vous dire qu'il faut aller là-bas, quoi. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie d'y aller. Donc il faut qu'on travaille par rapport à vous, en fait. C'est que le matin, quand on se lève le matin, c'est que je suis content d'aller là où j'ai envie d'aller, quoi.
Comment on fait pour bénéficier justement des services de cette organisation
Du SPRO? Et alors, en ce qui concerne le SPRO, en fait, c'est pas un service. C'est le fait de se dire que, je vais prendre l'exemple qu'on prend souvent, c'est que dans une institution du département, ça peut être un lycée, ça peut être la mission locale, ça peut être le CIO, ça peut être le BIJ, le Bureau d'information jeunesse. En fait, c'est quelqu'un qui pousse la porte de l'établissement. On puisse l'orienter et ne pas le renvoyer vers quelque chose pour aller encore chercher. L'idée, c'est que moi, si il y a quelqu'un qui pousse la porte de la mission locale, c'est que je puisse lui répondre et lui dire, ben, en fait, il faut aller là. Ou si je contacte le partenaire pour lui dire, ben, en fait, j'ai une situation, est-ce que tu peux l'accompagner, en fait. Voilà.
Et pour faire ce que vous faites, quelles études vous avez entrepris ?
Donc c'est bien parce que je vais être l'exemple de ce que je vous disais depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas prédestiné, je n'ai pas fait des études spécifiques pour faire ça. Moi, je suis éducateur de formation. Donc j'ai été pendant 20 ans éducateur. Et donc j'ai passé mon bac, j'ai été en école d'éduc. Quand je suis sorti, j'ai fait le travail que je voulais faire à l'époque, qui était éducateur. J'ai travaillé pendant 20 ans avec différents publics qui étaient... les ados, les adultes, les anciens, les tout-petits. Et puis à un moment, à l'époque du Covid, vous vous rappelez, on se posait tous des questions sur nos métiers et tout ça. Et puis en fait, je me suis dit, tiens, je vais relancer mon truc en faisant autre chose peut-être. Ça faisait 20 ans. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer à la mission locale au début. Donc c'est il y a 4 ans en tant que conseiller. Conseiller auprès des jeunes, on va dire, en difficulté, qui étaient en recherche dans l'insertion. Et puis aujourd'hui, donc, je suis chargé de projet. Donc l'idée, c'est qu'à travers mes expériences, en fait, j'essaye de créer des actions, des projets, d'accompagner les partenaires pour répondre aux besoins, en fait, du public dans lequel on est en charge, en fait.
Très bien, merci. On va se retrouver avec une nouvelle personne après une pause musicale.
De retour sur Studio ZEF avec de nouveaux intervenants, on va les laisser se présenter.
Alors bonjour, moi c'est Lucas Lamis, donc je suis en troisième année de BUT Métiers Multimédia et l'Internet à Blois.
Et moi je m'appelle Léo Blanchetière, je suis en deuxième année de R&T aussi à l'UIT de Blois.
Merci, et donc quelles différentes matières, justement vous avez dit que vous étiez tous les deux dans des filières différentes, quelles différentes filières justement il est possible de suivre à l'UIT de Blois ?
Alors, il faut tout d'abord savoir que l'IUT de Blois, du coup, c'est regroupé sur deux sites. Un site à Blois, à l'espace chocolaterie, juste à côté de la gare SNCF. Et puis, il y a juste à côté de Jean Jaurès, sur le site Jean Jaurès, où là-bas, il y a deux formations, donc MMI et RET. Et puis, à la chocolaterie, il y a SGM et MP.
Donc, en MMI, qu'est-ce qu'on peut faire globalement? C'est une formation qui s'axe sur le développement web, mais il n'y a pas que ça, il y a de la communication, il y a du graphisme, il y a de la vidéo. En fait, on touche à tout ce qui va aller de près ou de loin avec du web.
Et puis en RET, nous, on vise à avoir tout ce qui est le système informatique d'une entreprise, donc les routeurs, les switches, les serveurs aussi, tout ce qui est mail, stockage de données, tout ça. Et puis on apprend à caractériser les signaux qui passent dans les câbles ou même dans les airs, la Wi-Fi, tout ça.
Et pour en arriver à ces formations-là, vous avez fait quoi avant ?
J'ai fait un bac général dans lequel j'ai pris les options mathématiques et NSI, donc numérique, sciences de l'informatique. Donc ce qui est pas mal, parce que ça m'a déjà donné pas mal de notions dans tout ce qui était du langage de programmation, notamment du web, avec un peu de HTML et de CSS, et ce qui m'a permis de ne pas être totalement dépaysé quand je suis arrivé en MMI. Après, il n'y a pas besoin de faire de forcément faire ça pour arriver en MMI.
Et moi, pareil, bac général, option maths et NSI, pour arriver ensuite en RET. Voilà.
Vous faites donc des études qui durent combien de temps ?
Alors les BUT, c'est des études qui durent 3 ans. C'est censé être professionnalisant, c'est-à-dire que quand on sort de ces études, on est censé pouvoir travailler avec les compétences qu'on a acquises. Maintenant, c'est pas impossible de faire une poursuite d'études comme dans un master ou une école d'ingé, par exemple.
À savoir aussi que du coup, dans les BUT, on est proposé de faire des parcours en alternance où on est proposé d'avoir des stages, ce qui permet aussi de bien être professionnalisé en rentrant directement dans l'entreprise pour pouvoir débuter et voir un peu à quoi ça ressemble en rapport avec sa formation.
Et est-ce qu'il y a une possibilité d'étudier à l'étranger avec les formations que vous faites ?
Alors pour étudier à l'étranger, il me semble que c'est possible en troisième année, mais ce n'est pas ce qui va être privilégié. En revanche, ce qui peut être plus ou moins facile de faire, c'est des stages à l'étranger. On nous propose facilement des stages, par exemple, dans l'Union européenne, au Canada ou au Japon. Et c'est très facile de les faire. Pour le coup, du moment qu'on sait parler un peu anglais, qu'on sait se débrouiller un peu, globalement, on peut les faire.
Oui, justement, par rapport au voyage au Japon, je sais qu'on est beaucoup épaulé avec ça. On nous propose des cours de japonais pour les personnes qui veulent faire des stages au Japon. Et puis, ils sont aidés financièrement. Alors, c'est sur dossier, évidemment, il faut avoir un bon dossier et tout ça. Et on est les élèves qui souhaitent aller au Japon sont bien accompagnés pour pouvoir faire des stages là-bas.
Et si on parle un peu plus du côté admission dans la filière, en termes de nombre de places, du taux d'admission, taux de réussite après, c'est dans quelle proportion à peu près ?
Alors, en MMI, il y a une cinquantaine de places. Donc pour être admis, globalement, ça va être moitié de bac généraux, moitié de bac technologique. Donc. Après, il faut avoir un dossier qui est plutôt OK pour entrer, mais il n'y a pas besoin d'avoir les meilleures notes au monde. Du moment en fait, qu'on arrive à montrer qu'on a envie de rentrer, par exemple en faisant un espèce de petit site web ou une petite application qu'on va par exemple montrer aux portes ouvertes ou mettre dans le dossier, ça peut être intéressant parce que on va montrer qu'on a envie d'apprendre, on a envie de donner dans cette matière-là.
Quasiment pareil pour RET, hein, 50% de bac généraux, 50% de bac technologique, et puis voilà.
Et puis après, pour niveau réussite, globalement, presque tout le monde arrive à finir ses études dans ces domaines-là, du moment qu'on travaille un minimum.
Et d'un point de vue perspective d'avenir, ça vous ouvre quelle porte, les formations que vous faites ?
Pour un BUT, le but à la sortie d'un BUT, c'est donc comme avait dit Lucas tout à l'heure, c'est un bachelor professionnalisant, donc qui vise justement à rentrer en entreprise une fois les trois années faites. Mais on peut, on a le cas justement avec Lucas qui souhaite faire un master juste après. On peut essayer de trouver un master une fois sorti de ces études-là ou
une école d'ingé. Effectivement.
Ouais, une école d'ingé. Voilà.
Et il me semble que c'est une formation donc qui est payante ou pas ?
Non, on a juste les frais d'inscription qui sont pas pour les boursiers, voilà, qui sont payés par l'État si vous êtes boursier. Mais sinon, pour ceux qui ne sont pas boursiers, je crois que c'est 100 euros pour pouvoir inscrire. Voilà.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des... Enfin, vu que vous travaillez beaucoup, notamment dans le numérique, l'informatique, est-ce qu'il y a, des besoins particuliers d'acheter soi-même du matériel ou ce genre de choses? Et si oui, est-ce qu'il y a des possibilités justement d'aide, soit de l'État, de la région ou de la formation?
Pour nous, il n'y a pas tellement besoin d'acheter grand-chose. Du moment que vous avez un PC chez vous sur lequel vous pouvez travailler, ça suffit largement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans notre formation ont des PC portables qu'ils amènent en cours pour travailler dessus directement. Mais après, dans notre formation, on nous prête aussi des PC en cours pour ne pas avoir besoin d'acheter de PC portable. Et moi-même, par exemple, j'ai pas de PC portable, donc je travaille sur les PC de l'IUT.
Et puis, oui, vous avez aussi des Mac à disposition. Voilà. Et puis nous, pour R&T, on a une fabrique connectée à l'intérieur des bâtiments. Avec des imprimantes 3D et tout ça. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, l'université aussi achète des Raspberry Pi qui sont des tout petits ordinateurs sans écran. En fait, on peut mettre des programmes dessus globalement, et tout est financé par l'université. On n'a quasiment rien à acheter par nos soins.
Et en termes d'accessibilité de l'IUT? Parce que c'est quelque chose qui est assez important quand on ne peut pas se déplacer, surtout que je sais que l'université de Blois est rattachée, enfin l'IUT de Blois est rattachée à celle de Tours. Est-ce qu'il y a des moments où il faut faire un aller-retour entre les deux?
Globalement, il n'y a jamais besoin de faire d'aller-retour entre les deux. Si on s'inscrit à l'IUT de Blois et qu'on fait nos études là-bas, on sera toujours là-bas, on n'ira jamais à l'université de Tours.
Et ben, merci d'avoir répondu à toutes nos questions, et puis nous on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Merci à vous.
Merci.
A new day starts, erase that little dot. There you go, you got a pop. No matter what you do, but really how you start. Getting close, don't erase. This new day is a second chance. Change face, and in peace, breaking into the next phase. Here you get to where you want. When everything on what you've done, dim gone long, your way straight away. Ain't that wrong? Change your name, woman in the man, friends in the bin, dim bin. We all left just the last. Like Hancock, cause no one knows troubles I've got. Breaks a man in two parts, a full open heart. It's a loose, losing faith. Started a truth, the true fate. Jump up one step and stop when Steams gets you wet. Steve's no shit, big time for big hit. Diamonds in a ship, score is a 3-1. Think I warn you, better skip. Living changes, fainting dangers. Ages ain't barriers, still wanting to get more.
De retour donc sur Studio Zef, toujours au forum de l'orientation à Blois, et on est donc avec une nouvelle personne. On va vous laisser vous présenter.
Bonjour, je m'appelle Yann Lafont, je suis élu à Blois, donc conseiller municipal à Blois. Je m'occupe d'une belle délégation qui est celle de l'énergie, de la transition énergétique. On s'occupe à la fois de faire de la rénovation énergétique de nos bâtiments municipaux. On développe ce qu'on appelle des réseaux de chaleur, c'est-à-dire qu'on distribue du chauffage et de l'eau chaude sanitaire à près de 8000 logements sur la ville. à partir de l'incinération de nos déchets ménagers. Et puis on essaye de déployer aussi au maximum des énergies renouvelables sur la ville. Et puis j'ai l'honneur et la chance d'être également vice-président de l'agglomération. Donc la communauté d'agglomération de Blois, c'est 43 communes, à peu près 110 000 habitants. Et là, je m'occupe à la fois de gestion des déchets, de ce qu'on appelle maintenant l'économie circulaire, c'est-à-dire comment on fait en sorte de produire moins de déchets en récupérant, en réemployant, en recyclant. Et puis j'ai aussi une belle délégation qui nous intéresse peut-être plus particulièrement aujourd'hui, qui est celle de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que l'agglomération a la compétence de l'accompagnement de nos à peu près 15 établissements d'enseignement supérieur sur le territoire de Blois et d'Aglopolis.
Donc effectivement, vous avez raison, on va s'axer plutôt sur cette dernière activité. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler de vos activités principales sur ce sujet ?
Oui, alors comme je vous le disais, la compétence de l'agglomération, c'est le soutien aux établissements. Il y a une compétence vie étudiante, mais qui, elle, est détenue par la commune, par la ville de Blois. Et là, il s'agit plus d'accompagner les étudiants eux-mêmes dans toutes leurs activités, je dirais, extrascolaires ou extra-étudiantes. Faire en sorte qu'ils vivent bien dans notre ville, qu'ils mangent bien, qu'ils puissent organiser des événements un peu extrascolaires en commun. Et puis donc l'agglomération, elle, soutient plutôt les établissements. Donc je vous rappelle qu'on a effectivement une quinzaine d'établissements. Alors on connaît les plus connus, c'est l'INSA, c'est l'école d'ingénieurs, c'est l'IUT à Blois, c'est le campus de la CCI, avec en particulier l'éthique, l'école de graphisme et de design. On a une très belle école de soins infirmiers également. Enfin voilà, je ne vais pas tous les citer pour ne pas faire de jaloux, pour ne pas en oublier. Et donc notre responsabilité, c'est de les accompagner au mieux, en particulier en les subventionnant, les accompagnant financièrement, en contribuant à leurs dépenses de fonctionnement, en réalisant des investissements importants aussi. Par exemple, on est en train d'achever la construction là, de l'autre côté de la gare de Blois on appelle ça un équipement sportif, donc d'un gymnase à destination principalement des étudiants de l'INSA. Et puis après, notre rôle est de fédérer et d'animer cette communauté d'établissements. On organise par exemple une fois par an ce qu'on appelle le comité territorial de l'enseignement supérieur. Et là, ça permet à l'ensemble des acteurs, l'ensemble des établissements, des chefs d'établissement, de se rencontrer, de partager, de faire connaître un petit peu leurs dernières actualités, puis d'envisager un travail en commun pour continuer à développer cet écosystème.
Et il me semble donc que vous avez dit que vous étiez à plusieurs délégations différentes. Comment ça se passe ? Vous êtes donc employé par l'agglomération et la mairie. Et comment est-ce que vous répartissez, enfin comment se répartit votre temps de travail sur ces différentes activités ?
Alors on ne parle pas en l'occurrence pour un élu d'être employé d'une collectivité, on est donc élu, on a un mandat et on a ce qu'on appelle des indemnités de fonction qui sont censées compenser, on va dire, la perte de salaire liée au fait qu'on laisse un peu, pour certains en tout cas, nos emplois habituels de côté. Alors moi, il se trouve que c'est un peu particulier parce que j'ai fait le choix, c'est mon premier mandat en 2020, j'avais un parcours professionnel derrière moi puisque j'ai un peu plus de 50 ans. Et donc j'ai fait le choix en 2020 de me consacrer pleinement à ces mandats. C'est une activité extrêmement prenante. Alors effectivement, il y a nos délégations, comme j'en parlais. Moi, j'ai une délégation à la ville, une à l'agglomération. Je siège également au syndicat de traitement des ordures ménagères qui s'appelle Valeco. On représente la ville dans les conseils d'école, par exemple. On intervient aussi dans des représentations sur des organismes régionaux. Donc c'est très prenant. Et moi, j'ai décidé de me consacrer pleinement à ces mandats et de laisser, en tout cas pour cette période de 6 ans, mes activités professionnelles de côté. Donc les indemnités de fonction qu'on touche nous permettent de compenser cette perte de salaire. Après, on a la chance, en tant qu'élu, de pouvoir s'appuyer sur les compétences des services, donc des agents de la fonction publique territoriale. Donc ils sont extrêmement compétents, ils bossent beaucoup et bien, et donc on s'appuie sur leurs compétences, sur leur travail. Et puis on est appuyé aussi par un secrétariat des élus qui organise notre agenda. Donc on a la chance de pouvoir nous appuyer pour être mieux organisés et pour être un peu disponible et à l'heure dans nos différents rendez-vous sur des gens très compétents.
Et d'un point de vue orientation, comment vous avez fait pour en arriver là où vous êtes ?
Alors c'est drôle, enfin la politique, la responsabilité politique n'est pas une vocation en soi. Alors certains décident de s'impliquer très très tôt dans les partis politiques, de militer. Il y a les jeunesses socialistes, les jeunesses écologistes, etc. Moi je ne suis venu en politique que très tard, à l'âge de 49 ans, donc je n'ai pas forcément... cette idée ou cette ambition avant, mais ça se fait à travers des rencontres. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Charles Fournier, qui est un militant et un élu écologiste très connu dans la région. Il a été vice-président du Conseil régional. Il est maintenant député à l'Assemblée nationale. Et c'est quelqu'un qui, entre autres qualités, a celle d'amener des gens en politique, des nouveaux profils. Et donc, en 2019-2020, moi, je m'inquiétais beaucoup de l'état de la planète, de la possibilité, ce que certains appellent d'un effondrement de la civilisation. Et j'ai eu envie de faire quelque chose, d'arrêter de développer ce qu'on appelle l'éco-anxiété de mon côté. Il m'a dit le meilleur moyen en tout cas de contribuer à rendre le monde un peu meilleur, c'est de t'engager en politique. Donc voilà, c'est comme ça qu'en 2020, en mars 2020, dans un contexte en plus un peu particulier qui était celui du Covid et du premier confinement, j'ai découvert cette responsabilité. J'en suis très heureux et très épanoui parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les Français peuvent avoir une assez mauvaise image de leur personnel politique. Je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau national. C'est vrai que ce qui se passe... aujourd'hui, avec l'incapacité à voter un budget, une Assemblée nationale qui est plutôt dans le conflit que dans la recherche de compromis, on peut raisonnablement avoir une mauvaise image du personnel politique. Mais je peux vous dire qu'au niveau local, il y a des gens extrêmement dévoués qui bossent, qui se dévouent complètement à l'intérêt général. Et en fait, les leviers d'action aujourd'hui, au niveau local, ils sont extrêmement importants, puisque donc on traite de compétences comme l'eau, comme les déchets, comme l'énergie, comme l'aménagement, comme l'urbanisme, comme les mobilités. Et ça a un impact vraiment très très fort sur le quotidien des habitants.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci pour votre invitation et bravo pour ce que vous faites.
Et c'est donc la fin du direct. Merci de nous avoir écoutés et la musique reprend sur Studio Zef. Merci beaucoup et au revoir.
Bonjour tout le monde.
Et maintenant, au micro, nous avons... Tu peux te présenter ?
Il faut que je parle de l'amour.
Vous dites le mot, l'amour.
L'amour.
Ce soir sur les ondes.
Vous êtes dans vos voitures, derrière votre poste radio.
Ah oui, ça va être enregistré.
Ça fait 15 ans qu'on est qu'au Studio Zef.